Des questions un peu très faciles, mais un peu difficiles, parce que tout le monde, moi je dis toujours que je viens de Côte d'Ivoire, parce que moi je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et là, mes parents sont d'origine sénégalaise, donc généralement je me présente comme quelqu'un qui est à cheval sur les deux cultures, parce que je fais mon lycée et tout ça en Côte d'Ivoire, et puis, mais j'ai grandi totalement dans une culture Wolof, donc je suis, généralement ce que je dis toujours, je dis que je suis ivoirien de cœur et sénégalais de sang, c'est comme ça que je me décris tout le temps, parce que c'est ça ma culture. Dans les deux pays, j'ai de la famille, j'ai mes petits frères et petites sœurs en Côte d'Ivoire, petits frères, petites sœurs, grandes sœurs et tout ça au Sénégal. Donc, généralement, ce que je fais, je vais dans les deux pays quand je vais en vacances. Je vais en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal.
Vous assumez cette double appartenance?
Oh, bien sûr. Je n'ai pas le choix. C'est qui je suis. C'est vraiment ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui au niveau individuel, au niveau de la personnalité. Et puis, c'est quelque chose que j'assume et que j'adore vraiment, parce que ça fait de moi quelqu'un qui est capable de ça crée une certaine polyvalence un peu culturelle, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire que quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je vous jure que je me sens comme si j'étais... Je suis chez moi. Quand je vais au Sénégal aussi, je suis chez moi. Et les cultures, je suis à cheval sur les deux cultures. Je parle quelques langues ici et là. Et puis, ça fait que je me sens bien. Mais les gens qui me voient généralement... automatiquement, ils assument « Oh, vous êtes sénégalais ». Je dis « Bien sûr », parce qu'au niveau phénotype, ils disent que je ressemble à un sénégalais en général. Voilà. Donc, c'est ça. C'est moi, ça. C'est vraiment les deux.
J'ai parlé d'une double appartenance. Je m'attendais à ce que vous me
corrigiez. Vous dites canadien, hein?
J'allais dire une triple appartenance.
Exactement.
Désormais.
les gens s'attendent toujours à ce que je dise canadien. Mais c'est ça. Écoutez, le Canada aussi, ces 30 dernières années au plus, le Canada a façonné qui je suis aussi, que je suis arrivé aussi là. Là, il fallait tout, je ne dis pas réapprendre, mais il fallait en plus rajouter sur ce qu'on est déjà pour pouvoir vivre et pouvoir survivre. Et donc, ça fait de moi, peut-être qu'on pourra parler de triple appartenance. Voilà.
Bien entendu, vous êtes ici au Manitoba maintenant, mais tout a commencé dans un endroit précis. Vous l'avez dit, vous êtes né en Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu de votre jeunesse, de votre enfance en Côte d'Ivoire.
Oh, c'était... Écoutez, c'était une belle enfance, honnêtement, là. Mes grands-parents, en fait, je ne dis pas immigrés, parce que mon grand-père travaillait un peu dans l'administration française à l'époque. Je dirais même, oui, et puis il a été affecté en Côte d'Ivoire. Donc, ma mère est née là-bas et tout ça, mes parents, voilà. Donc, et je fais mon école primaire et puis une très belle école aussi à Trècheville. Et puis, mon secondaire aussi. J'ai grandi dans ce pays, plein de cultures. C'était un mélange en fait de ce qui était un peu intéressant aussi, c'était un mélange culturel. En fait, les populations du Nord ont forgé qui je suis, parce que je suis un peu d'origine musulmane aussi, parce que ces populations, et en même temps les groupes du Sud, c'est-à-dire les groupes lagunaires et tout ça, je suis né au bord de la lagune Ébrié, là, il y a une lagune qu'on appelle en Côte d'Ivoire, et vraiment ça a tissé en moi plusieurs façons de voir le monde. Parce que ce qui était un peu fascinant, c'est que en dehors en fait du cadre familial, je suis 100% ivoirien, mais quand je rentre dans le cadre familial à la maison, je deviens totalement sénégalais, parce que mes parents vivaient vraiment la culture sénégalaise. Donc on parlait chez nous, on parlait wolof, c'est-à-dire la langue, parce que ma mère est wolof, mon père il est poula part.
Si je comprends bien, et ils vivaient en Côte d'Ivoire, mais le Sénégal les a suivis.
Ma mère est née là-bas, donc ma mère, quand elle s'est mariée à un Sénégalais qui était au Sénégal. Donc on est parti, tu vois, donc elle s'est mariée. Donc ça fait que quand je suis né, j'étais au Sénégal, je suis né en Côte d'Ivoire, puis on est parti au Sénégal, au pays de mon père un peu. Et puis, mais en même temps, en Côte d'Ivoire, on vivait déjà la culture sénégalaise à fond, on parlait wolof à fond. Mais mes amis, en général, étaient deux groupes, un groupe composé d'une... Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est ce pays qui est fascinant. Je ne sais pas, maintenant, il y a eu un peu de problème. À l'époque du président Félix Faubonnier, c'était le pays de la diversité, vraiment. C'était le pays... c'était un carrefour culturel. Il y avait des... Où toutes les nationalités africaines se retrouvaient. Toute l'Afrique de l'Ouest vivait en Côte d'Ivoire. Vous allez en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous avez tout un quartier sénégalais et choses pareilles. Les gens pensent que Trècheville, c'est vraiment sénégalais, finalement. Et c'était le carrefour, c'était le pays où même les étrangers pouvaient voter à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Il fallait justement y habiter et tout ça. C'est vraiment dans cette culture de diversité, de différentes appartenances venues de toute l'Afrique qui ont fait de moi ce que je suis. En même temps, j'étais totalement imprégné dans ma culture... sénégalaise. Et c'est de là que, bon, je fais presque tout mon cursus secondaire, tout ça là-bas. Et puis, c'est après que je suis parti en France à continuer mes études universitaires un peu. Mais c'était ça, c'était cette diversité-là qui m'a toujours fasciné et qui m'a permis d'ailleurs, quand je suis venu ici au Canada, avec ce multiculturalisme qu'on vit ici, là, ça a forgé ma personnalité, ça a fait de moi qui je suis, mon intégration n'était pas compliquée. Ça fait de moi quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui approche facilement les autres, qui se laisse approcher facilement aussi, disons. C'est difficilement explicable. D'ailleurs, moi, par exemple, juste après mon 12e secondaire, là, je suis allé en France pour continuer mes études de droit. Et puis, mes petits frères, ils sont restés. Eux, ils sont encore beaucoup plus ivoiriens que moi parce qu'ils ont les passeports nationalité. Mais moi, je suis parti.
Vous êtes parti en France pour étudier le droit. Je pensais que c'était les sciences politiques.
Ben oui, ben je suis. Racontez-nous cette histoire. Mais non, je suis un peu multi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Parce que moi, dans ma tête, dans mon...
Même s'il y a quand même connexité entre droit et sciences politiques.
Oui, parce qu'à l'époque, quand vous allez dans les facultés de droit françaises, il y avait des facultés de droit et de sciences politiques. C'était comme ça que c'était à l'époque.
Même aujourd'hui encore, dans certaines universités.
Dans certaines universités, mais maintenant, dans les universités, en général, il y a des facultés de droit à côté, des facultés de sciences po. Mais moi,
Peut-être c'est pour ça que ceux qui étudient le droit aime beaucoup la politique.
Je sais pas, ça doit être pour ça vraiment. Non, mais parce que c'est un peu connexe, parce que quand on fait aussi du droit, on fait du droit administratif, vous savez, donc c'est l'étude un peu de l'administration locale, on va faire du droit constitutionnel, donc on va apprendre à partir. Donc finalement, ça se rejoint quelque part, mais maintenant, c'est deux mondes vraiment, finalement. Donc je fais 4 années de droit jusqu'à arriver à maîtrise parce que je voulais aller, moi je voulais être avocat ou juge, quelque chose comme ça, c'était mon ambition. Je voulais avoir mon droit et puis retourner en Côte d'Ivoire parce que mes parents étaient là-bas, tout le monde était là-bas. Donc d'abord, je fais du droit. Là-bas, je fais droit et sciences po. Et puis dans cette science politique-là, j'étais un peu plus ou moins spécialisé, un peu en relations internationales, un peu plus ou moins. C'est droit, sciences po. Et puis quand je suis arrivé ici, je voulais continuer à la faculté de droit de Manitoba, mais ça n'a pas marché ici parce qu'on m'a dit que moi, j'ai fait du droit français, du droit civil français.
Ouais. Ici, c'est le common law, exactement. Alors que vous, c'est romano-germanique.
Voilà. Exactement. Donc, c'est exactement ce qui a fait qu'arriver ici, là, j'ai bifurqué un peu à la faculté de droit Sciences Po, puis voilà.
Donc, vous avez étudié à l'université de Saint-Boniface.
Oui, c'est ça. Et puis ici, après, j'ai fait l'université de Manitoba, où j'ai fait mon master's là-bas. Et tout
toujours
ça.
En sciences politiques.
Voilà, donc c'est un peu ça.
Mais vous avez commencé avec le droit, mais d'où vient cet amour pour les sciences politiques?
Oh, ben écoutez, d'abord, c'était le fait que...
Est-ce que vous vouliez être politicien?
Non, rien du tout. Jusqu'à dernièrement, je n'ai jamais voulu être politicien. Je n'ai jamais voulu être politicien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le métier d'avocat ou de juge. Parce que, je ne sais pas, avec mes copains, je pense qu'on était à Abidjan. Et puis, on était au plateau. Et puis, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, mais on s'est hasardé à se promener dans le plateau d'Abidjan. Et puis, on est rentré dans une cour de justice. Et puis, c'est là où j'ai vu, il y a des juges et il y avait des avocats et tout ça qui prenaient des décisions. J'ai vu toutes ces belles personne en robe qui prenait des décisions, je me suis dit, ça, c'est ce que j'aurais envie de faire. Et là, quand j'ai eu mon bac, je me suis inscrit à la faculté de droit à Abidjan d'abord, et puis après ça, je suis parti en France. Voilà. Donc, c'est de là que c'est venu ma passion pour le droit. Et puis, ce qui arriva, c'est que je suis venu ici, et là, finalement, je ne pouvais pas
m'inscrire. Mais bien avant, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, au Manitoba?
Oh, deux choses.
D'abord, est-ce que vous êtes venu directement au Manitoba?
Directement au Manitoba.
Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Voilà. C'est une province canadienne, anglophone, etc. Expliquez-nous.
Deux raisons. Première raison, c'est que j'avais les amis avec lesquels j'avais fait le lycée étaient ici au Canada d'abord.
Ah bon, vous aviez quand même une certaine connexion ici.
J'avais une connexion, deux connexions d'ailleurs. Et puis, donc c'est ça, première connexion, j'étais en contact avec eux, ils m'ont dit au Canada, ben viens. À l'époque, c'était pas vraiment compliqué. J'étais étudiant inscrit, vous faites la demande de visa, on vous l'accorde. Et deuxièmement, quand j'étais en troisième année de droit, je rencontrais une jeune fille canadienne au Manitoba qui faisait, parce que j'étais à l'université de Caen en Normandie, et puis là, on s'est rencontrés, on est restés ensemble pendant 3-4 mois. Et puis là, après, elle m'a invité pour venir, et puis voilà. Et puis, je suis...
Non, j'ai pas compris. On est restés ensemble? On est restés amis?
Non, c'est-à-dire qu'elle faisait le tour, donc elle est restée à Caen, donc on sortait ensemble, voilà, le terme classique. Voilà. Voilà. Pendant 3-4 mois, donc elle est venue au mois de mai, juin, juillet, août, et puis elle est revenue faire ses études, et puis l'année suivante... l'année d'avant, je fais un petit tour ici parce que j'avais des amis ici. Mais l'année suivante, c'est là que je l'ai rencontrée. Elle m'a dit, ben, viens. Puis je dis, tu sais quoi, moi, je suis en troisième année. Il faut que je finisse et puis je rentre en Côte d'Ivoire, tu vois. Et puis après ça, elle m'a convaincu. Je suis venu, c'est comme ça. Et puis mes amis m'ont convaincu. Donc, je suis venu pour ces deux raisons-là. Un, c'est une raison, comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce que je peux dire ça? Une raison amoureuse, je ne sais pas comment on dit ça encore. Et puis l'autre, c'est pour ces amis qui m'ont poussé. Sinon, honnêtement, là, à l'époque, vous savez, dans nos pays à l'époque, quand on a une licence ou une maîtrise, quand tu rentres, moi c'était ça mon objectif, retourner en Côte d'Ivoire. Mais pour aller travailler.
Est-ce que après avoir terminé les études en France, est-ce que vous êtes revenu
Non, je suis directement ici. Mmh.
Expliquez-nous comment ça a été votre intégration ici. J'imagine que la situation n'était pas comme elle est à l'époque.
Écoutez, moi j'ai dit que les nouveaux arrivants aujourd'hui ont beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de belles choses qu'on leur offre sur un plateau d'or.
Même s'ils se plaignent quand même.
Écoutez, ça fait partie, c'est la nature humaine, je crois. Mais ce qui est sûr, quand on est arrivé au départ, nous, il n'y a pas de reconnaissance d'acquis, il n'y a pas de comment on appelle ça, difficile de travailler hors campus, il n'y a pas de cours d'anglais gratuitement, il n'y a pratiquement rien, tu recommences à zéro, point à la ligne, c'était comme ça. Et puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Ici à Saint-Boniface, il n'y avait que les Ibrahima Diallo qui étaient là, deux, trois grandes familles, Amadou Cissé et tout ça, mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il fallait refaire tout, vraiment pour s'intégrer. Donc, et puis là, maintenant, pour l'intégration, il a fallu qu'on se batte. Il a fallu qu'on se batte et créer des associations, et approcher les politiciens. Et puis, il y a beaucoup de... Par exemple, le fait que les étudiants travaillent 20 heures à l'université, 20 heures en dehors du campus, on s'est battu pour ça avec le premier ministre de l'époque. Ici, on avait beaucoup de petites choses qui sont peut-être apparemment insignifiantes, mais par exemple le réseautage qu'on faisait au niveau politique, La bataille qu'on faisait pour l'intégration des immigrants dans la communauté, c'est-à-dire la participation, il fallait faire tout ça là. J'appelle ça bataille, mais c'était pacifique. C'était vraiment essayer de faire en sorte que vous savez, souvent quand on parle d'intégration, il y a l'intégration et puis il y a aussi le concept d'inclusion. L'intégration, finalement, si vous regardez, c'est vraiment de se faire accepter, de venir dans la communauté, qu'on vous ouvre les portes. Mais c'est là que ça arrête. Donc, il fallait se battre pour être inclus, parce que l'inclusion, finalement, c'est un concept qui veut dire, si vous regardez, ça veut dire être inclus, c'est être vu. Être inclus, c'est être entendu.
Être accepté.
Être accepté.
Et comme vous êtes, hein?
C'est-à-dire qu'on nous ouvre les portes et puis ben voilà, quand on arrive maintenant, c'est là où la vraie bataille commence. C'est pas parce qu'on est inscrit, parce que là, il faut que vous soyez vu pour être vu. Il faut que vous que nos enfants, que nos frères qui arrivent, que nos sœurs qui arrivent puissent être embauchés dans les organisations communautaires, dans les organisations provinciales ou fédérales. Être entendu, c'est vraiment que notre voix soit en fait, si vous voulez, une clé d'ouverture en fait pour les gens qui arrivent. Et finalement, c'est ça, c'est être vu, finalement, c'est accepter, nous, finalement, de se battre. Parce que quand on se bat contre le racisme, la discrimination, c'est nous qui payons les pots cassés au détriment, en fait, pas au détriment, mais on paye les pots cassés, mais c'est pour le bien-être de ceux qui arrivent demain. On est sur le... je sais pas comment dire ça encore, là. On est sur la sellette, toujours. Toujours, toujours. Donc, il fallait se battre tout le temps. Et l'intégration n'était pas facile au départ. Hein. Je peux vous l'assurer. Je me rappelle bien quand on parlait d'intégration. C'est pour ça que l'ancien président de la SFM, comment il s'appelle encore? En fait, il fallait se battre vraiment. On s'est vraiment battu. Je me rappelle au début, quand on est arrivé, il y a certains membres de la communauté qui disaient dans les années 90, là, qui disaient une expression qui m'a marqué, qui disait que, il y a quelqu'un qui disait, nous, on n'a pas d'appétit pour ce mélange culturel-là.
Est-ce que vous aviez le sentiment d'être accepté ici au début?
Ben non, au début, c'était ça la bataille. Au début, on avait... C'était mixte parce qu'on avait des personnes comme Daniel Boucher, l'ancien président de la SFM, qui était vraiment là pour nous. Si vous voulez savoir, c'est l'homme vraiment de la communauté. C'est l'homme de la diversité. Et au départ, il y a des gens qui étaient contre parce qu'il était président PDG de la SFM. Et puis, les gens lui disaient, lui, c'était des gens qui prônaient l'ouverture au niveau de la communauté. Mais il y a des gens qui disaient que non, on n'a pas d'appétit pour ce mélange culturel-là. Je me rappelle bien, quelqu'un lui a même posé la question en pleine émission, mais est-ce que vous donnerez votre fille à marier à un noir ou à un arabe? Il a dit, bien sûr, pourquoi pas, ça dépend de ma fille. Et c'était vraiment une véritable bataille douce qu'il fallait faire, et il s'est battu, on s'est accroché à lui, et honnêtement, je peux vous dire que si la communauté est aussi ouverte qu'elle est là, c'est Daniel Boucher, et puis là, il y a eu l'accueil francophone, il s'est battu pour l'accueil francophone. Nous, on s'est battu au départ. On a été même les premiers on a créé l'amicale dans ces années avec Ibrahima Diallo, qui était vraiment le propulseur, vraiment. Et puis, mais avec Daniel, c'est lui qui a tout fait jusqu'à ce que la diversité soit là. Il était vrai, il était franc, il s'est battu pour l'accueil.
Et on est en train aujourd'hui de vivre cette diversité.
Aujourd'hui, on le vit. Et les gens qui arrivent, quelquefois, on va les chercher à l'aéroport. L'accueil est devenu un des organismes les plus, je dirais, les plus importants pour l'immigration au Manitoba, et avec peut-être une trentaine, quarantaine d'employés, alors qu'à l'époque, quand on a commencé, il y avait un seul employé, Bintou, c'est la seule. Et aujourd'hui, elle est là, et il y a eu presque une quarantaine, cinquantaine d'employés.
C'est pratiquement la porte d'entrée pour tous les immigrants francophones, surtout les francophones arrivent ici.
Ah oui, bien sûr, c'est pour vous dire que combien de fois on vient de loin, mais les gens qui arrivent aujourd'hui le savent pas pour eux. Moi, j'ai vu des gens qui se plaignent, oh ouais, le cours d'anglais, il n'y en a pas le soir, il n'y a pas le matin, il y a ceci, il y a cela. Bon, on rigole, on sourit. Nous, on n'avait pas de cours d'anglais. On se disait, démerde-toi, et puis voilà. Et puis, c'est ça. Il y en a qui disent, oh, eh ben, le service que j'ai offert là, c'est pas un bon service. Mais oui, ben, vous saviez qu'à l'époque, il n'y avait aucun service, il n'y a rien. Tu te débrouilles, tu vas. Il n'y avait pas, c'était absolument rien. Et puis aussi, je les comprends, parce qu'on va, on va chercher ces personnes-là dans leur pays, on les fait miroiter beaucoup de choses. Donc, c'est normal que.
Qu'il y ait peut-être des frustrations.
Oui, c'est frustrations.
C'est humain, c'est normal.
C'est humain. Je pense que c'est le côté humain de la chose. Pour moi, pour pouvoir s'en sortir, dans une communauté s'intégrer, il faut s'impliquer. Parce que je sais que ce soit avant ou maintenant, personne ne va vous intégrer. Personne ne va vous inclure. Vous devez mettre sur pied les jalons de l'intégration, développer les facteurs de l'intégration, de votre propre intégration. Personne ne le fera pour vous, que ce soit avant ou maintenant. C'est clair.
Ce reportage a été produit pour IGL, l'initiative de journalisme local.